SBS Radio.
Et dans les grands titres de l'actualité, donc pour ce 12 octobre, la fin de la cavale de Xavier Dupont de Ligonnès. Après 8 ans, l'homme qui est accusé d'avoir assassiné sa femme et ses enfants, c'était dans une banlieue de Nantes, a donc été arrêté en Écosse. On fera le point dans ce journal. L'offensive turque qui continue en Syrie, et ce malgré les condamnations internationales. Le bilan officiel pour le moment fait état de 11 morts. Et en sport, la France qui bat l'Islande et qui est aux portes de la qualification pour l'Euro de 2020. À la une donc de ce journal, la fin de 8 ans de cavale pour Xavier Dupont de Ligonnès. Soupçonné donc d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants, il était introuvable depuis 2011. Certains le croyaient même mort. Il a été arrêté à Glasgow hier à sa descente d'avion. Les enquêteurs français sont en route pour l'Écosse. Christophe Paget.
Vendredi, la police reçoit un appel anonyme indiquant que Xavier Dupont de Ligonnès va monter dans un avion pour Glasgow. Elle le manque à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle et prévient la police écossaise qui le contrôle à son arrivée. Ses empreintes correspondent. Il n'oppose aucune résistance lors de son arrestation. Selon la chaîne de télévision France 3, l'homme a subi des opérations de chirurgie esthétique et voyageait sous une fausse identité. C'est la fin d'une cavale de 8 ans. 8 ans après la découverte, le 21 avril 2011, des corps de sa femme et de ses 4 enfants, âgés de 13 à 20 ans, enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes, dans l'ouest de la France. Tous ont été tués de plusieurs balles de carabine dans la tête. Xavier Dupont de Ligonnès avait été vu pour la dernière fois 6 jours avant, quittant à pied un hôtel du Var, dans le sud de la France, à des centaines de kilomètres de là. Sur son dos, un étui pouvant contenir une carabine. Depuis, les enquêteurs ont découvert un mail qu'il avait adressé à sa maîtresse plus d'un an avant, dans lequel il se disait ruiné et envisageait de tuer sa famille. Au fil des années, la police avait reçu de nombreux signalements, mais elle n'était jamais parvenue jusqu'à ce vendredi à le retrouver.
Voilà, donc Christophe Paget. La situation en Syrie maintenant et 3 jours après l'offensive turque, c'était en Syrie, le secrétaire général de l'OTAN est en visite dans le pays et il demande aux Turcs d'agir sous la réserve. On l'écoute.
La Turquie est en première ligne dans une région très volatile. Aucun autre allié de l'OTAN n'a enduré autant d'attaques terroristes. Aucun autre allié de l'OTAN n'est plus exposé à l'instabilité, à la violence et aux troubles du Moyen-Orient. Et aucun autre allié de l'OTAN n'accueille plus de réfugiés que la Turquie, dont beaucoup viennent de Syrie. Avec le ministre Çavuşoğlu, nous avons discuté de l'opération turque dans le nord de la Syrie. Je lui ai fait part de mes sérieuses préoccupations au sujet de l'opération en cours et sur les risques de davantage de déstabilisation dans la région, la montée des tensions et encore plus de souffrance. Bien que la Turquie ait des préoccupations sécuritaires légitimes, nous nous attendons à ce qu'elle agisse avec retenue. Nous avons un ennemi commun, Daesh. Il y a quelques années, il contrôlait une partie importante du territoire en Irak et en Syrie. En travaillant ensemble dans la coalition, nous avons réussi à libérer ce territoire et des millions de personnes. Ces avancées ne doivent pas être mises en péril.
C'était donc James Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. De leur côté, les Nations Unies mettent en garde, bien que des milliers de civils, enfants, personnes âgées sont affectés par ce conflit. Et avant ce chiffre, 100 000 personnes, c'est le nombre estimé de déplacés pour le moment. On écoute Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies.
The Human Rights Office said that military operations must be conducted in accordance with international humanitarian law, in particular the principles of distinction, proportionality and precaution. It added that civilians and civilian infrastructure are to be protected from attack and from the effects of hostilities.
Voilà, donc Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, a noté, comme je le disais en titre, le bilan officiel fait état de 11 morts. On écoute la réaction de Marise Payne, la ministre des Affaires étrangères australienne.
DFAT and officials have been in consultation both in Ankara and in Canberra and continuing to raise our concerns. This is going to contribute significantly to instability and to danger, quite frankly, in the region. And the flow-on effects from that are very, very concerning.
13h06, ça bouge dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le président américain Donald Trump l'a annoncé cette nuit. Les États-Unis ont décidé d'annuler certaines taxes et autres frais, des frais de douane sur certains produits chinois. Et ce, à partir de la semaine prochaine. En échange, la Chine achètera l'équivalent de 74 milliards de dollars de produits agricoles américains. Et pour Donald Trump, ce n'est que le début. On l'écoute.
We've come to a deal. Pretty much subject to getting it written. It'll take probably 3 weeks, 4 weeks, or 5 weeks. As you know, we're going to be in Chile together at the big summit. And maybe it'll be then, or maybe it'll be sometime around then. But we've come to a deal on intellectual property, financial services.
Voilà donc le président américain Donald Trump. De son côté, le premier ministre australien Scott Morrison se dit optimiste sur la suite des négociations entre les deux pays. On l'écoute.
I've always been optimistic about this because I've always known what people are trying to achieve here is to secure a deal, to secure a new agreement that recognises the modern economy and modern nature of the trading relationship should be in existence. So, you heard today some pretty important things that I have also been talking about being included in this arrangement when it comes to particularly technology and IP and things of this nature. This is a good thing.
Voilà donc le Premier ministre australien. Le prix Nobel de la paix a été décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour avoir négocié un accord de paix avec l'Érythrée, mettant ainsi fin à une impasse militaire de plus de 20 ans, la guerre frontalière de 1998 à 2000. Il a déclaré que les prix, le prix Nobel de la paix, allait donner un nouvel élan à son travail donc pour la paix en général dans la région. On l'écoute.
So this is a great news for Africa, great news for East Africa, the place where peace is a very expensive commodity, and I'm sure it will give us energy to work toward this peace and to realize peace in our region.
Voilà donc le prix Nobel de la paix. Retour en France maintenant et 2 semaines après l'explosion d'une usine de produits chimiques, c'est à Rouen, donc en Normandie, des questions se posent autour du sinistre et surtout autour de l'indemnisation des victimes. Pour le gouvernement, cela réside dans le principe de pollueur payeur, c'est-à-dire que l'entreprise Lubrizol, dans ce cas-là, devrait payer, mais les engagements de ce dernier restent flous. Reportage de Bruno Faure.
Monsieur, le patron de Lubrizol France ne dira pas un mot à la sortie de la réunion en préfecture de Rouen. 3 ministres, des élus, le monde agricole, les défenseurs de l'environnement, tous espéraient des promesses chiffrées et à long terme. Sébastien Windsor, président de la Chambre d'agriculture de Normandie.
Quand on voit la somme globale de ce qu'il y a indemnisé, qui pourrait atteindre les 50 millions d'euros, on voit très bien que ces enveloppes de court terme ne donneront pas la réponse dans la durée. Et là, on a besoin que Lubrizol, comme l'a déclaré son PDG, se mette très rapidement à indemniser les agriculteurs et pour la totalité des préjudices.
Pour le moment, et selon un premier accord avec l'État, Lubrizol va indemniser 450 agriculteurs de 6 départements. Un premier fonds de solidarité est créé. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture.
Nous avons reçu cette semaine l'entreprise Lubrizol. L'engagement ferme a été pris par l'entreprise de mettre un fonds d'aide aux filières agricoles. Le préfet lui a demandé et donc les choses vont se faire.
Les choses vont se faire, affirme le ministre. Les professionnels promettent d'être vigilants. Laurence Sellos, présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime.
Je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trop le choix. Demain, s'ils veulent être encore présents sur notre territoire, il faudra qu'ils honorent les engagements qu'ils ont pris aujourd'hui devant 3 ministres quand même.
D'après le ministre de l'Agriculture, au total, ce sont 3000 exploitants qui sont concernés par les conséquences de l'incendie de Lubrizol.
Allez, en mot de sport pour finir ce journal. Et on commence avec le match qualificatif pour l'Euro de 2020. La France affrontait l'Islande dans un froid glacial à Reykjavik. Le score 1-0 dans un match un peu poussif par les Bleus. Antoine Grenier.
Et ce soir, les Bleus font un très grand pas vers l'Euro 2020. La victoire de ce soir à Reykjavik a été compliquée face à de valeureux Islandais. Les Français ont longtemps buté sur le mur bleu dressé par les hommes d'Eric Hamren. En fin de première période, ça s'est enfin emballé avec 2 occasions coup sur coup de Griezmann et de Coman. Mais il faudra attendre la seconde période et un pénalty obtenu un peu après l'heure de jeu par ce même Antoine Griezmann. Olivier Giroud le transforme, 37e réalisation en bleu pour l'attaquant de Chelsea qui se rapproche de plus en plus de Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. 1-0, score final. L'équipe de France non seulement va s'en contenter, mais en plus cela lui permet de mettre les Islandais désormais à 6 points, de ne plus être rattrapé par les Islandais dans la course à l'Euro 2020. Les Bleus de Didier Deschamps qui peuvent maintenant obtenir leur qualification pour l'Euro face à la Turquie. Il faudra battre les Turcs lundi au Stade de France.
Et c'était Antoine Grenier, vous l'avez entendu, depuis le stade. L'entraîneur de Sydney FC, Steve Corica, eh bien, il a déclaré qu'il était heureux après la victoire 3-2 contre Adelaide United lors du match d'ouverture donc de la saison de A-League. Le but décisif est venu de Ryan McGowan de la tête à la 87e minute. A noter que la nouvelle technologie de l'arbitrage par assistance vidéo, la fameuse VAR, eh bien, a provoqué une nouvelle fois une polémique en refusant un but, le but de Costa Babarousses, qui était un... Été déclaré hors-jeu quelques millimètres alors que le score était de 2-2. Mais pour Corica, la VAR est correcte la plupart du temps, comme dans ce cas-là. On l'écoute.
You know, I think even Costa's one is touch and go for me. I think it's, in my opinion, it's probably the same as their one onside. So, but yeah, it's you know, it is what it is. VAR, I think, you know, can work in your favour sometimes and obviously not. Sometimes as well, but I think they got the right decisions most of the time tonight.
Voilà donc pour le sport. Coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 22 degrés, 24 degrés à Adélaïde, 19 à Melbourne, 15 à Hobart, 16 à Canberra, 17 à Sydney, 21 à Brisbane, 31 à Cairns et un très agréable, comme toujours, 34 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 12 octobre, la fin de la cavale de Xavier Dupont de Ligonnès. Après 8 ans, l'homme qui est accusé d'avoir assassiné sa femme et ses enfants, c'était dans une banlieue de Nantes, a été arrêté au descente de l'avion en Écosse, à Glasgow. L'offensive turque qui continue en Syrie malgré la condamnation internationale, le bilan officiel fait état de 11 morts. Et en sport, on vient de l'entendre, la France qui bat l'Islande et qui est aux portes de la qualification pour l'Euro de 2020. 13h13, courte pause et on se retrouve dans le reste de l'émission dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.